another song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
février, je vous avais parlé d'un voyage aux Antilles, et bien c'est maintenant. Donc aujourd'hui, avec Françoise pour les lectures et avec Mao à la technique, nous partons pour la Guadeloupe avec Traversée de la mangrove, écrit par Maryse Condé en 1989 et paru au Mercure de France, réédité depuis en poche. Un grand voyage. Et d'abord, un grand bonjour à Odile et à vous toutes et tous qui nous écoutez, amis des livres et de Marseille. Maryse Condé, vous la connaissez bien sûr, c'est maintenant une jeune dame de 85 ans qui a consacré sa vie à l'écriture et à l'enseignement de la littérature en France, en Afrique, en Amérique. Depuis ses goûts, qui l'a fait connaître mondialement, et qui avait fait découvrir à beaucoup les grandeurs de l'empire Bambara au XVIIIe siècle, elle a écrit plus d'une trentaine d'œuvres, majoritairement situées dans la Caraïbe. Avec Traversée de la mangrove, elle évoque la Guadeloupe traditionnelle des fonds et des mornes, des villages qui vivent loin du monde agité des métropoles, mais qui ont leur propre agitation. Le roman commence avec l'annonce de la mort d'un homme, qui n'est pas natif de l'île et qui, depuis son installation à Rivière-aux-Sels, puisque c'est Rivière-aux-Sels, le fameux village, il a fait poser bien des questions aux habitants. La traditionnelle veillée mortuaire qui se déroule ensuite est l'occasion de revenir sur ces questions et surtout sur la vie du village et de la communauté tout entière. Peu importe la véritable identité de l'homme disparu. Ce qui compte, c'est l'image qui reste de lui et les modifications subtiles que sa présence a apportées dans la vie de toutes ces personnes présentes à la veillée, qui, par le biais du roman, prennent la parole tour à tour. Dans le temps clos de cette seule nuit, au-delà de la petite communauté présente, c'est toute la société guadeloupéenne de la fin du XXe siècle qui se dessine avec ses tensions, ses contradictions, ses conflits. Suivant donc Maryse Condé et Francis Sanchez, puisque c'est le nom du héros mort, de l'autre côté de la Grande Eau. Les traditions autour de la mort sont primordiales dans toutes les sociétés et aux Antilles, elle rassemble croyances africaines et européennes. Voyons ce que dit Joby, un jeune homme présent à la veillée de Francis Sanchez, sur ses veillées, justement.
C'est la deuxième fois que je vois un mort, mais c'est la première fois que j'assiste à une veillée. Les veillées, je croyais qu'elles n'existaient plus. Je croyais qu'elles faisaient partie de ces choses que les vieilles personnes radotent comme en an serein, en temps longtemps, vivant seulement dans les souvenirs embrumés de leur tête.
Oui, en an serein, en temps longtemps, c'est le temps de la Deuxième Guerre mondiale ou bien il y a longtemps. Et avec la veillée, le jeune homme évoque aussi les cimetières de Guadeloupe, ces cimetières marins, plus ou moins tous identiques, qui sont dans l'île, répartis avec leur carrelage, leur coquillage, et qui sont donc une autre marque de la tradition, des traditions qui entourent la mort en Guadeloupe.
Au cimetière, il y avait des coquillages et des conques de lambis peintes en blanc, disposés autour de tombes creusées dans la terre. Il y avait aussi des tombeaux imposants, vastes comme des maisons. Celui de grand-mère était comme cela. Il y avait des photos scellées dans le marbre, avec au-dessous des noms que je n'ai pas su lire, qui se détachaient sur le carrelage blanc et noir.
Avant le cimetière, revenons donc au récit de la découverte du mort. C'est en fait le début du roman. Et c'est une vieille dame qui parle.
Mon cœur n'a pas sauté, mon cœur n'a pas sauté. Mademoiselle Léocadie Timothée, institutrice en retraite depuis une vingtaine d'années, resta debout, une main sur la poitrine, l'autre encornée à hauteur de la bouche, et examina au ralenti les images de ses rêves, remontant jusqu'à cette nuit de la semaine précédente, où les souffrances de son corps usé, jointes aux aboiements des chiens de Léo son voisin et au meuglement de ses vaches au piquet dans la savane attenante à sa propriété, ne lui avaient permis de s'endormir que sur le coup de 4 heures du matin, quand, le devant jour, blême et peureux s'était déjà glissé sans bruit entre les persiennes de ses fenêtres. Non, pas de doute, c'était lui. La face enfouie dans la boue grasse, les vêtements souillés, il était reconnaissable à sa carrure et à sa tignasse bouclée poivre et sel. L'odeur était épouvantable, et mademoiselle Léocadie Timothée, cœur et estomac sensibles, ne put à son propre dégoût retenir une nausée, un hoquet, avant de s'agenouiller à 2 genoux et de vomir longuement dans les hautes herbes de Guinée du talus. Comme tous les habitants de Rivière-au-Sel, elle avait haï celui qui gisait là à ses pieds. Mais la mort est la mort. Quand elle passe, respectez-la. Elle fit 3 signes de la croix, baissa la tête et récita la prière des défunts. Puis, elle regarda autour d'elle, effrayée. Qu'est-ce qui lui avait pris de couper par cette trace qu'elle n'empruntait jamais? Qu'est-ce qui l'avait poussé à buter des 2 pieds contre ce cadavre? Chaque jour, une fois que le serein tombait, elle donnait un tour de clé à la maison où elle vivait seule, entourée de souvenirs, de photos, de chats somnolents et d'oiseaux qui bâtissaient leur nid au creux des abat-jours de ses lampes. Et elle allait prendre la fraîcheur, marchant le long d'une ligne droite immuable. Quelle force avait été plus puissante que des années et des années d'habitude. Forçant son vieux corps, l'aiguillonnant de la terreur qui à présent bouillonnait en elle, elle reprit le chemin du village. Le cœur battant à grands coups, lui emplissait les oreilles de son vacarme. Elle remonta la trace et retrouva, noire à présent, entre les fougères arborescentes, vu l'heure avancée, le sentier qui rejoignait la route à la hauteur de la chapelle à Sainte-Marie, mère de toutes les douleurs. La maison du mort s'élevait un peu en dehors du village, serrée par la forêt qui avait dû s'écarter de mauvaise grâce pendant quelques kilomètres et qui se hâtait, vorace, de reconquérir le terrain perdu. C'était une maison faite de tôles et de planches, alors qu'à travers le pays, avec la défiscalisation, les plus pauvres s'efforçaient de bâtir en béton. On sentait que celui qui l'avait mise debout n'avait aucun souci de ce que les autres pouvaient bien penser de lui. Mademoiselle Léocadie s'arrêta à la hauteur de la barrière, enflant sa voix cassée pour lancer un prudent. « Y a quelqu'un ?» Un adolescent sortit, le visage fermé comme une porte de prison. Il hurla à l'adresse des bêtes. « Mâche, mâche !» Et les monstres reculèrent devant plus violents qu'eux. Toujours sans bouger, Mademoiselle Léocadie interrogea. « Alix, est-ce qu'elle est là ?» L'adolescent fit oui de la tête. D'ailleurs, attirée par tout ce sabbat, Vilma elle-même apparaissait sur la galerie. Mademoiselle Léocadie se décida à s'avancer, l'esprit torturé. En effet, comment annoncer à cette jeunesse, à cet enfant qu'elle avait vu baptiser par un beau dimanche en plein mois d'août, elle s'en souvenait, que son homme gisait dans la boue, crevé comme un chien. Il n'est pas rentré dormir, pas vrai ? Vilma ne songea même pas à répondre par un mensonge, et les yeux humides de l'eau tiède et salée du chagrin expliqua. ni la nuit passée, ni celle d'avant, avant. Ça fait 3 nuits. J'ai peur. Maman a envoyé Alix pour dormir avec moi, en cas que les douleurs me prennent. Mademoiselle Léocadie prit son courage à deux mains. Laisse-moi entrer, j'ai quelque chose à te dire. À l'intérieur, elles s'assirent de part et d'autre de la table de bois blanc, et Mademoiselle Léocadie commença de parler. Alors, l'eau tiède et salée déborda des yeux de Vilma et coula en rigole le long de ses joues encore rondes d'enfance. Eau de douleur, eau de deuil, mais non point de surprise. Car elle le savait depuis le début que cet homme-là sortirait de sa vie brutalement par effraction.
La nouvelle de la mort de Francis Sanchet, annoncée à la jeune femme, va cheminer dans le village. Et en effet, elle envoie son frère en messager.
Vilma ordonna « Va dire ça au père. » Alix obéit.
Donc, le jeune homme se rend au village, d'abord dans le lieu qui est un genre de café qui permet aux hommes de se rassembler pour boire un verre de rhum.
Dans un tohu-bohu de paroles sans signification ni utilité, les buveurs étaient assemblés, chez Christian, et buvaient leur rhum agricole tandis que les joueurs frappaient leurs dés sur les tables de bois. En temps ordinaire, personne n'aurait prêté attention à ce genou. Mais, debout à l'angle du comptoir, sa mine était telle qu'on devinait avant qu'il n'eût ouvert la bouche la qualité des mots qu'il allait en tomber. Noirs et pesants, comme le deuil. Et c'est dans le silence qu'il annonça « Francis Sanchet est mort ». Les hommes répétèrent, ceux qui étaient assis se levant debout en désordre, les autres se figeant raides là où ils étaient. « Mort ?» Sans une parole de plus, Alix leur donna dos. Ils savaient la question qui allait suivre et à laquelle ils ne pouvaient pas encore apporter de réponse. « Qui l'a tué ?» Tandis qu'ils marchaient à grande vitesse vers la maison de ses parents, les hommes, oubliant là leur rhum agricole et leurs dés, se dépêchèrent de partir planter la nouvelle aux quatre coins du village, et bientôt les gens sortirent en foule sur le pas de leur porte pour commenter là-dessus. Pas saisis cependant, car chacun savait bien qu'un jour quelqu'un lui ferait son affaire à Francis Sanchet.
Oui, la nouvelle parvient ainsi, parmi les hommes rassemblés chez Christian, à Moïse le facteur, qu'on retrouvera tout à l'heure et de qui on va dire quelques mots.
L'annonce d'Alix se fraya un chemin avec peine dans l'esprit de Moïse dit Maringouin, le facteur. Non parce qu'il était saoul, comme cela lui arrivait un soir sur trois, mais parce qu'il avait été le premier à Rivière-au-Sel à s'être lié avec Francis Sanchet. Quand sa signification eut atteint et éclairé chaque recoin de son cerveau, il se mit à trembler comme la feuille sur la branche par jour de grand vent. Ah ! Il avait donc eu raison d'avoir peur, Francis. Son implacable ennemi l'avait flairé, suivi à la trace, retrouvé, frappé jusque dans l'île de feuillage où il était venu se terrer.
La nouvelle va donc continuer à se répandre, mais les hommes qui l'ont reçue, les premiers, vont aussi à la découverte du corps et le rapportent à sa demeure.
La lune ferma ses deux yeux d'or quand on retourna sur le dos, face tuméfiée à l'air, le corps pesant de Francis Sanchet. Les étoiles firent de même. Aucune clarté ne filtra du ciel muet. Penchant leurs flambeaux, Alix et Alain éclairèrent leurs aînés, Carmélien et Jacques, à genoux dans la mauvaise odeur. Sylvestre Ransaran, le père, se tenait en retrait. Moïse coulait dans son ombre. Carmélien releva la tête et souffla. Il n'y a pas de sang sur lui. Pas de sang. Les six hommes se regardèrent estomaqués. Puis, sans plus tarder, Jacques fit glisser le cadavre sur le brancard de bambou et signifia à ses frères de l'aider. Le cortège s'ébranla. Alors la lune peureuse rouvrit les yeux et illumina chaque recoin du paysage. Quand le cortège atteignit la maison de Vilma, dans le chemin creux et le jardin, sur la galerie, piétinait déjà une foule de gens, mi-curieux, mi-endeuillés, venus aux nouvelles. À voir les gens si nombreux, on aurait pu conclure à leur hypocrisie, car tous, à un moment donné, avaient traité Francis de vagabond et de chien, et ces derniers ne doivent-ils pas crever dans l'indifférence ? En réalité, les gens se trouvaient principalement là par égard pour les parents de Vilma, les Ramsarans.
Oui, les Ramsarans, c'est une façon de continuer la présentation sociologique du village. En fait, on a vu la vieille institutrice, le facteur, et voici une des familles importantes du village.
Les Ramsarans étaient respectés, toujours présents aux cérémonies, ne rechignant jamais à lâcher un gros billet pour la fête annuelle et le défilé du carnaval. Enfin, si certains d'entre eux avaient gardé leur sang pur et avaient été chercher leur compagne au grand fond dont ils étaient originaires, nombreux étaient ceux qui s'étaient mariés dans des familles nègres ou mulâtres de la région. Ainsi, des liens de sang s'étaient tissés.
Oui, donc après les Ramsarans dont on vient de parler, on va voir que le médecin arrive, non seulement le médecin, mais les autorités médicales.
Le docteur Martin arriva de Petit-Bourg au volant de sa luxueuse BMW et s'enferma un long moment seul à seul avec le mort. Quand il ressortit, on ne put rien lire sur son visage. Il alla téléphoner de chez Dodo's Pélagie, qui resta vainement debout derrière la porte pour surprendre la conversation. À l'en croire, en dépit des apparences, même s'il n'y avait ni sang ni blessure sur le corps, cette mort ne pouvait être naturelle. Vers 10 heures, donc, une ambulance s'amena, dispersant les curieux à grands coups de klaxon, et pendant 3 jours et 3 nuits, le corps de Francis Sanchet traîna sur le marbre froid des tables d'autopsie, jusqu'à ce qu'un médecin appelé de la pointe, en désespoir de cause, fût formel. Il ne fallait pas se laisser enfiévrer l'esprit par des propos de villageois amateurs de rhum agricole. Chercher midi à 14 heures, couper les cheveux en 4. Alors, l'après-midi du 4e jour, Francis Sanchet revint chez lui, non plus campé sur ses 2 pieds et dominant tous les hommes, même les plus hauts, de sa stature, mais allongé dans la prison de bois vernis clair d'un cercueil dont le dessus était vitré, de telle sorte que l'on apercevait pour quelques heures encore sa belle gueule carrée. On posa le cercueil sur le lit, couvert de fleurs fraîches venues à profusion de la pépinière, dans la plus grande des 2 chambres à coucher sous les 3 poutres, pain, vin, misère, qui de son vivant avaient été les témoins des ébats féconds de Francis Sanchet avec ses femmes successives. Tandis que les hommes restaient assis sur des bancs, s'abritant de l'eau qui tombait à verse du toit cassé du ciel sous la bâche de Monsieur Démocrite, rigolant et racontant leurs blagues, les femmes s'affairaient, faisant cuire de la soupe grasse avec la viande de bœuf que les Ramsarans des grands fonds, riches éleveurs, avaient apporté à leurs parents pour le deuil, servant des tournées de rhum agricole, se disposant en cercle pieux autour du lit funéraire pour réciter des prières. Au dehors, attachés aux ébéniers, les 2 Dobermann qui avaient adoré leur maître et que personne n'avait songé à nourrir hurlaient sans arrêt de faim et de désespoir. Et la lune brillait, fière derrière le rideau mouillé de la pluie.
La veillée va donc pouvoir se dérouler. L'homme est mort de mort naturelle et l'art de Marie Scondé maintenant va tenir dans l'enchaînement des témoignages. Avant de commencer la veillée, on va donc écouter celui de Cyril qui est le conteur et qui va, pour ce mort Francis Sanchet comme pour les autres, animer la veillée. Alors, écoutons brièvement Cyril avant de revenir aux différents témoignages.
Yécric, yécrac ! Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous dis bien le bonsoir. La compagnie, bonsoir. Moi, que vous voyez là devant vous, pareil à un bois-bois que l'on promène dans les rues de la Pointe au temps du carnaval, je ne suis quand même pas un nègre ordinaire. Debout sous la bâche qui faisait eau, Cyril faisait ses pitreries ordinaires et les gens s'esclaffaient. Pourtant, son cœur n'y était pas. Quand Alix Ramsaran l'avait trouvé les deux pieds dans la terre de ses buttes d'igname pour lui annoncer que Francis Sanchet était passé de vie à trépas et qu'on souhaitait sa présence à la veillée, il en avait été estomaqué. C'est que, quelques jours auparavant, moins d'une semaine en vérité, il était tombé sur Francis Sanchet. Un petit matin, dans la trace Saint-Charles, assis sur un tronc d'arbre, comme il ne se mêlait pas aux cancaniers de Rivière-aux-Sel et se souciait peu de savoir combien de ventres de filles Francis Sanchet avait fait enfler, il l'avait salué poliment. « Ça vous fait ?»«
Ça vous fait ?» Ça veut dire « comment ça va ?»
L'autre avait eu une moue expressive, comme si une colique lui clouait les boyaux en ce moment précis, et lui avait fait signe de s'asseoir près de lui. Cyril avait obéi, toujours par politesse, et Francis Sanchet avait tiré d'une macoute une bouteille de rhum Marie Galantée, celui-là même qui vous fait chavirer si vous n'avez pas la tête bien vissée sur les deux épaules. Cyril avait décliné l'offre. Il n'était pas de ceux qui boivent sitôt les yeux ouverts, et Francis Sanchet lui avait dit, désignant la souffrière, sage et sereine, une écharpe de voile gris nouée autour du cou. « J'aimerais qu'il pète le volcan, qu'il mette tout à feu et à sang. Comme ça, je ne serai pas seule à partir. »«
Je ne serai pas seule à partir, » a dit Francis Sanchet, en souhaitant l'explosion du volcan. Mais oui, le volcan, il n'explose pas si souvent que ça, quand même. Et avant de mettre de la musique, tout à l'heure, on va quand même s'arrêter pour le témoignage de Mademoiselle Léo Cady. Mademoiselle Léo Cady Timothée, on a vu que c'était une institutrice retraitée. Et donc, avec ses souvenirs, on va pouvoir retrouver beaucoup de souvenirs de la Guadeloupe. Que nous dit-elle ? Ce mort-là est à moi. Ce n'est pas par hasard si c'est moi qui l'ai trouvé, déjà boursouflé dans la trace, à l'heure où le ciel saignait derrière la montagne. Je suis devenue sa maîtresse et sa complice. Enfin, pas sa maîtresse, bien sûr, mais sa complice. Je ne le quitterai qu'au moment où les premières pelletées de terre tomberont sur le bois de son cercueil. Et pourtant, de son vivant, je ne le portais pas dans mon cœur, cet homme-là. Et j'étais bien de l'avis de ceux qui s'apprêtaient à envoyer une lettre recommandée au maire pour qu'on l'expulse, comme les Haïtiens ou les Dominicains qui transforment les terrains de football de petits bourgs en terrains de cricket. Vraiment, ce pays est à l'encan. Il appartient à tout le monde à présent. Des métros, toute qualité de blanc, venus du Canada ou d'Italie, des Vietnamiens, et puis celui-là, vomi par on ne sait quel mauvais porteur, qui s'est installé parmi nous. Oui, notre pays a changé, c'est moi qui vous le dis. Dans le temps, nous n'avions pas connaissance du monde, et le monde n'avait pas connaissance de nous. Les chanceux bravaient la mer jusqu'à la Martinique. Fort-de-France était de l'autre côté du monde, et l'on rêvait de l'or jaune de Guyane. Au jour d'aujourd'hui, pas une famille qui n'ait sa branche en métropole. On visite l'Afrique et l'Amérique. Les Indiens retournent se baigner dans l'eau de leurs fleuves et la terre est aussi microscopique qu'une tête d'épingle. J'ai été la première à ouvrir l'école à classe unique, ici, à Rivière-aux-Sel. C'était en 1920, j'avais 20 ans. Alors, l'usine Farjol employait encore son millier d'hommes qui vivaient dans les casanègres éparpillés autour de la maison du géreur, celle-là seule où s'allumait et s'éteignait le soleil électrique. Tout le jour, ces cheminées lançaient plus haut que les plus hauts manguiers des jets de fumée couleur de goudron qui salissaient le sel. L'air sentait la bagasse et le vesou. Mes élèves, cheveux en grains de poivre rouge, noirs comme la misère de leurs parents, nouaient leurs souliers par les lacets et les suspendaient précautionneux à leurs épaules. À midi, comme il n'y avait pas de cantine, ils mangeaient sous le préau leur farine de manioc et leur hareng sort. J'habitais 4 pièces, et comme avant ce temps je n'avais jamais quitté la maison de ma maman et dormi seule dans un lit, loin de la chaleur du corps de ma sœur, les chevaux de la nuit galopant jusqu'au devant jour me tenaient éveillée du bruit de leur hennissement et de leurs sabots ferrés. Le jeudi, j'enfonçais mes talons dans le sable de la plage de Viard, constellé de palourdes et de choubettes, ses coquillages endeuillés comme des ongles de ménagère. Je ne savais pas nager. Aussi, je me tenais loin de la mer, qui me hélait de sa voix de femme folle. Approche-toi, approche-toi près, tout près, arrache tes vêtements, plonge. Laisse-moi te rouler, te serrer, frotter ton corps de mes algues. Tu ne sais pas ce que d'où tu es né. Tu ne sais pas que c'est de moi que tu es né. Tu ne sais pas que tu me portes en toi. Allez, sans moi, la vie n'existerait pas. Une fois, je suis tombée sur un homme et une femme qui faisaient l'amour sous un amandier pays. Pas gênée, ils m'ont gêné tes paroles grossières et je me suis mise à courir. Le dimanche, j'allais à la messe de Petit-Bourg. L'église comble sentait la sueur, l'eau de Cologne et l'encens. À distance respectueuse du tabernacle, sur le parvis, les hommes s'entretenaient des malheurs de la canne qui se mourait de sa belle mort. À l'intérieur, les femmes pâmées priaient Dieu et les enfants de cœur, petits diables en surplis, chantaient de leur voix angélique. Je frappais la serge bleue de ma poitrine et je sanglotais à l'Agnus Dei pour tous les péchés que d'autres avaient commis pour moi. Pourquoi est-ce que j'avais choisi d'enterrer mes 20 ans dans ce trou? C'est que je voulais travailler pour ma race. Mon papa était du parti de M. Légitimus, né dans une maison basse, à côté de celle de ses parents à Marie-Galante. À 15 ans, il avait dû prendre la varlope et de ce fait, il n'avait pas pu étudier au lycée Carnot pour former la Société des requins avec les autres enfants de malheureux comme lui qui ne voulaient plus voir la misère de leurs parents. Par la suite, il était devenu le bras droit de Légitimus sur la Grande Terre. Et il galopait à cheval à travers la Grande Terre pour réveiller l'esprit endormi des nègres. C'est ainsi qu'il avait failli trouver sa mort devant l'usine mal nommée de Bonne-Mère. Mais il m'avait élevé dans ses idées. À Rivière-du-Sel, elle, la race avait mauvais goût. Les parents de mes élèves ne comprenaient pas pour quelles raisons leurs enfants devaient perdre leur temps avec moi. Ils gardaient leurs garçons pour mener les bœufs boire l'eau des mares en saison, pour amarrer la canne et, à Noël, pour égorger le cochon. Leurs filles, ils en avaient besoin de jour comme de nuit. Quand ils me croisaient, ils ronchonnaient des paroles dont je devinais à leur mine et au pli de leur front la signification. J'ai mis du temps pour comprendre la raison de leur attitude. Nos peaux étaient de la même couleur, nos cheveux du même grain. Et pourtant, je vivais dans l'opulence sans souffrance d'une maison à galerie et à galta. Je faisais écailler mon poisson par une servante qui me servait 2 repas par jour. À leurs yeux, j'étais une traîtresse. Je souffrais de cet isolement, car j'aurais voulu qu'on m'aime, moi. Au fil des années, mon cœur s'est endurci et je me vengeais sur les enfants. Je les mettais agenouillés, à 2 genoux, au beau milieu de la cour de l'école, le soleil planté comme un coutelas entre leurs omoplates et la sueur coulant salée sur leur front. Je les faisais réciter jusqu'à s'enrouer des tables de multiplication ou recopier des pages et des pages. Je ne les lâchais pas avant la nuit noire, trop heureuse de les regarder vaciller dans l'effroi de voir la forêt vomir Tissapoti ou le loup-garou. Au bout de 5 ans, un blanc est arrivé de France pour m'inspecter et s'est exclamé « Mademoiselle Léocadie, vous avez fait des merveilles !» Et à 39 ans, je suis devenue directrice d'une école à 4 classes. Ma mère pleurait de joie. Et c'est alors que la vie a changé. On était en 1939. Autour de moi, les gens disaient que les Allemands allaient déclarer la guerre à la France. Certains stockaient la viande salée, d'autres la morue, d'autres de la farine, assurant qu'on allait bientôt manquer de tout. Moi, j'avais mes propres soucis et je regardais finir ma jeunesse. Comme elle avait passé, elle avait coulé comme un cierge devant l'autel de la Sainte Vierge et il ne restait plus qu'une petite mare tiède de rêves fondus. Pendant longtemps, j'avais espéré qu'un homme relèverait ma garde et que... Bon, enfin. Et cet espoir lui-même était mort. À la rentrée d'octobre, on avait muté du moule pour des raisons disciplinaires, Théota, Dimodan. Tout le pays connaissait son nom, car dans la voix du peuple, il avait dénoncé l'enseignement de l'histoire, rappelant que nos ancêtres n'étaient pas les Gaulois. À présent, l'administration lui reprochait des faits bien plus graves. Dans un entrepôt des quais, il s'était réuni avec 4 de ses bons amis, un cordonnier, un charpentier, un instituteur et un médecin, un mulâtre celui-là, et ils avaient discuté de communisme. À l'époque, tout le monde pensait que c'était une doctrine dangereuse et interdite. Aujourd'hui, tout le monde est communiste ou indépendantiste. Pour un peu, je changerai de place là maintenant à la veillée et j'irai m'asseoir dans l'autre pièce, sur la galerie où se tiennent ceux qui se soucient de faire semblant, mais qui regardent la hauteur du rhum dans les bouteilles et qui vident leurs assiettes de soupe grasse en écoutant Cyril crier ses « Yécric, yécrac !» Alors en attendant la suite de la veillée, on va mettre un peu de musique de Begin, bien sûr.
Ma cadeau les maudits, Marie Clémence maudit.
D'antan, comme disait Maryse Condé. Alors, après le témoignage de Léo Cady, nous allons retrouver, comme on vous l'avait un petit peu dit tout à l'heure, celui de Moïse. Alors, Moïse dit maringouin, c'est-à-dire le moustique, celui qui titille un peu tout le monde parce qu'il circule dans l'île, parce qu'il connaît tout le monde, justement. Moïse, le facteur, que nous dit-il ? Nous allons voir un petit peu comment il a rencontré Francis Sanchez.
Je suis le premier qui ait connu son vrai nom. Moïse se répétait ces mots comme s'il lui conférait un droit sur le défunt, droit qu'il ne consentait à partager ni avec les deux femmes qu'il avait aimées, ni avec les deux enfants qu'il avait plantés dans leur ventre, celui qui poussait déjà dru sans père sous le soleil, celui qui se préparait à faire son entrée d'orphelin dans le monde, avec pour tout bien ses deux yeux pour pleurer. Il se croyait aussi une des seules personnes à savoir pourquoi Francis avait choisi de s'enfermer dans la calebasse de cette petite île que ballottait la mauvaise humeur de l'océan. Non pas que ce dernier lui eût fait la moindre confidence, non. Il avait cru deviner la vérité au travers du flot de paroles à demi incompréhensibles qu'il débitait les soirs, où après avoir pourtant bu jusqu'à plus soif chez Christian, ils arrosaient au rhum le restant de la nuit, jusqu'à ce que le soleil surgissant d'entre les montagnes leur signifie que le devant jour s'avançait. Quand il était avec Francis, Moïse n'ouvrait pas la bouche, premièrement parce que l'autre ne l'écoutait pas, deuxièmement parce que tout ce qu'il aurait pu raconter et même inventer aurait semblé fade et sans sel, comparé aux fantaisies épicées que Francis, moulin à parole, servait jour après jour. Après cette rencontre, il avait commencé par s'imaginer que la vie allait prendre un autre goût, que les feuilles allaient verdir à l'arbre de demain. Jusqu'au jour où il avait dû comprendre qu'il s'était monté la tête, que Francis n'était rien qu'une bête aux abois, venue se terrer au fond d'un trou pour mourir. Il s'en souvenait du midi lumineux où il l'avait vu pour la première fois. Tu es le facteur, pas vrai? Ce n'est donc pas la peine que je te raconte des histoires. Je m'appelle Francisco Alvarez Sanchez. Si tu reçois des lettres à ce nom-là, ce sont les miennes. Autrement, pour tout le monde ici, je suis Francis Sanchez, compris? Moïse ne pit pas plus mot. Arrivé devant la propriété, Alexis, Francisco, ou plutôt Francis, extirpa sa carcasse de la voiture et resta debout de toute sa hauteur à examiner son bien. Puis, il se tourna vers Moïse et Raya. « Il faudrait un bon charpentier, pas vrai ?» Moïse sortit à son tour de la voiture et les mots se bousculèrent dans sa bouche. « Inutile, tu n'en trouveras pas. Personne n'acceptera de travailler ici. » Mais moi, je t'aiderai. » On commença par trouver drôle l'amitié entre Moïse et ce Francis Sanchez qui sortait on ne sait d'où. Le premier soir où les deux hommes entrèrent prendre un coup de rhum chez Christian, les habitués eurent envie de les pousser dehors. Néanmoins, la largeur des épaules de Francis étant celle d'un établi de menuisier, on se borda à murmurer sournoisement derrière son dos. Certains se dirent qu'ils allaient faire la leçon à Moïse. Puis ils se rappelèrent que dans sa famille, on avait toujours eu un sérieux grain. C'est en fin de compte, avec des haussements d'épaules, que les gens de Rivière-aux-Sels virent les deux nouveaux inséparables grimper sur des échelles pour mettre des pièces au toit, arrondir tant bien que mal les coudes des gouttières, cimenter les carreaux de la galerie, désherber la propriété, planter un jardin potager. Tomates, gombos, cives, piments, car Moïse avait eu raison. Francis avait eu beau battre les villages environnants en montrant la couleur de son argent, s'enrouer à téléphoner à travers l'île, il n'avait trouvé personne, pas même un clandestin haïtien, pour l'aider à remettre son bien en état.
Eh oui, l'histoire, c'est que la maison de Francis, elle a la réputation d'une maison hantée.
Il installa une table de bois blanc sur sa galerie, posa dessus une machine à écrire et s'assit derrière elle. Quand les gens, surpris et démangés par la curiosité, arrêtèrent la camionnette de Moïse pour lui demander ce qu'il faisait là, ils s'entendirent répondre que c'était écrivain. Écrivain ? Qu'est-ce qu'un écrivain ? La seule personne à qui on donnait ce titre était Lucien Évariste, et c'était en grande partie par moquerie, parce que depuis son retour de Paris, il ne perdait pas une occasion de raconter qu'il travaillait à un roman. Un écrivain ? Est-ce donc un fainéant, assis à l'ombre de sa galerie, fixant la crête des montagnes, des heures durant, pendant que les autres suent leur sueur sous le chaud soleil du bon Dieu ? En même temps, Francis Sanchet ne semblait manquer de rien. Chaque jour, des camions filaient à travers Rivière au Sel pour lui livrer un frigidaire, un téléviseur, une chaîne hi-fi. Le clou fut le jour où une voiture portant en caractère rouge l'inscription « Chenil, Mazurel, animaux en tout genre » vrombrit à travers le village en plein midi et livra les deux Doberman, alors guère plus gros que des chatons, mais déjà rapaces, avides du sang frais versé des bêtes innocentes, et les voisins durent enfermer leurs volailles dans la prison des basses-cours. C'est cela un écrivain ? Allons donc.
On va donc avoir l'idée de ce que vient faire Francis Sanchet, mais surtout, on va avoir la révélation de d'où il tire son argent.
Francis Sanchet possédait une malle. Une malle de fer verte qu'il avait reléguée dans la plus petite des deux chambres à coucher et d'où il tirait tout. L'argent pour la viande, le pain ou les boîtes de pâle pour les chiens, les ramettes de papier jaune et toutes du même format pour sa machine à écrire, les hardes, les livres qu'il aimait, toutes en espagnol, à l'exception d'un Saint John Perse en collection de la Pléiade. Cette malle, Francis Sanchet la tenait fermée à clé, mais, illogique, il gardait la clé à la portée du premier venu dans un bougeoir à la tête de son lit. Une fois la malle ouverte, Moïse eut un saisissement. De l'argent, des billets de banque, plus qu'il n'en avait vu depuis qu'il avait déserté le ventre de Sean, sa mère. Pas seulement des Français, bonasses et familiers, mais des billets étrangers, des Américains, verts, étroits, tous semblables et par là même trompeurs, perfides. Combien y en avait-il ? Un soir, n'en pouvant plus de peine, Moïse profita d'une embellie et courut chez Francis, des mots et des mots d'explication à la bouche, les pieds s'enfonçant dans la boue et s'en extirpant avec des bruits gourmands de succion. Repus, les Doberman bâillaient à la chaîne. Il allait pousser la barrière quand une silhouette de femme s'était dessinée sur la galerie, sa paillasse de chabine dorée illuminant le serein. Sans parvenir à en croire ses yeux, Moïse reconnut Mira, et paralysé, il resta debout à la regarder comme s'il la voyait pour la première fois, comme si d'année en année il ne l'avait pas vue forcir, grandir parmi eux, plante interdite dont les branches, les feuilles et les fleurs distillaient un parfum vénéneux. Que faisait-elle là ? Tremblant de tous ses membres, il s'était rencogné dans l'ombre d'un ébénier, jusqu'à ce que la pluie, qui avait repris ses forces, le trempe jusqu'aux os. Alors, en panique, il avait couru ventre à terre chez lui. Partir. Mais à en croire Francis Sanchet, qui avait parcouru la terre, pas un coin sous le soleil qui ne porte son lot de désillusions. Pas une aventure qui ne se solde par l'amertume. Pas un combat qui ne se conclut par l'échec. Alors, vivre à Rivière-au-Sel à perpétuité ? Finir ses jours solitaires comme un mâle crabe dans son trou ? Terrifié, Moïse regarda autour de lui, la ronde des prieuses, comme si tous ses visages ne lui étaient pas familiers, depuis celui trituré, malaxé, déformé, raboté, rendu cauchemardesque par le grand âge de Mademoiselle Léocadie Timothée, jusqu'à celui de Mira, radieuse obsession de ses nuits, et celui de Vilma, encore informée, émergeant de l'adolescence. Une douleur lui laboura la poitrine, dont il ne sut pas la cause, et un flot d'eau salée déborda de ses paupières.
Mira, Vilma, ce sont donc deux femmes que Francis Sanchez a séduites. Et nous allons les écouter, bien sûr. Nous allons écouter leur récit, sachant que Mira, j'ai plus le nom du facteur, ça y est, il s'appelle Moïse. Sachant que Moïse, en effet, nous en a parlé, nous a dit qu'elle était blonde, que c'était une chabine blonde, comme ces métisses qui sont fréquentes aux Antilles et qui ont en effet les cheveux blonds et qui font rêver bien des hommes. Donc Mira a été séduite par Francis. Et aussi Vilma. Donc, on va d'abord prendre le récit de Mira, et puis ensuite viendra celui de Vilma. Alors, je suis en train de patauger, figurez-vous, parce que je n'ai plus la page du récit de Mira. Donc, je vous demande un petit instant pour retrouver le récit de Mira que j'ai choisi parce que, en dehors d'être une femme séduite par Francis Sanchez, c'est aussi dans son récit une ouverture sur les terres de Guadeloupe et sur la façon dont on peut dans la nature trouver les illusions et les désillusions aussi de la nature.
Même si je me résigne à ne pas savoir qui il était, Quentin, lui, mon fils, n'en fera pas de même. Il partira comme Tigean et parcourra le monde à cheval, piétinant le sol des sabots de sa haine, s'arrêtant dans chaque case, dans chaque masure, dans chaque habitation pour demander « Où t'es connaître, papa Mouen ? Tu connaissais mon père ?» Il entendra, père recevra toute qualité de réponse, les uns lui diront « Hey, c'était un vagabond !» qui est venu enterrer sa pourriture chez nous. On ne sait même pas si c'était un blanc, un nègre, un indien. Il avait tous les sangs dans son corps. Les autres. C'était un fou qui déparlait. D'autres encore. C'était un maléficier qui a quimboisé deux de nos plus belles jeunesses.
Oui, quimboisé, ça veut dire qu'il les a soumis à son pouvoir de sorcier.
Un rien du tout, je te dis. Alors moi, je dois savoir la vérité. Je ne descendrai plus jamais à la ravine. Elle aussi m'a trahi, comme Rosalie Sorane, ma mère, qui m'a laissée dans la solitude au premier jour du monde. Le fruit qu'elle m'a donné pour apaiser la faim de mon cœur était en réalité un fruit empoisonné. Moi, Mira, la sauvageonne sans col ni licou, je ne savais pas qu'il y avait plaisir à servir, donner, voire s'humilier. Il se moquait de moi. Femme, on t'a appris, comme dans toutes les bonnes familles, qu'on retient les hommes par le ventre. Moi, je te dis que rien ne me retient. Ni la tête, ni le cœur, ni le ventre, ni le sexe, rien. Je ne fais que passer. Tu sais, avant toi, je n'avais jamais baisé une femme plus d'une fois, de peur qu'elle ne me retienne prisonnier entre ses cuisses. Debout, sur la galerie, il promenait ses yeux sur l'horizon. Je voudrais que ce petit volcan qui vous fait tellement peur et que vous guettez chaque matin retrouve sa vigueur des commencements et pète. Un soleil, plus soleil que le soleil, jaillirait de sa bouche cratère. Des cendres souffraient aussi et nous mourrions tous. Tous ensevelis sans avoir le temps de dire ouf. Mourir tout seul, mourir une seule et unique fois, voilà ce qui est horrible. Je protestais. « Pourquoi parles-tu toujours de mourir ? Tu es campé sur tes deux pieds quand même, ma poux. » Je n'amenais pas le sourire sur sa bouche et il secouait la tête. « Moi, ma poux ? Si je te racontais la vérité, tu t'enfuirais en quatrième vitesse. Dis-moi la vérité. » Mais il ne prononçait plus un mot. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais rien. Alors moi, je dois découvrir la vérité. Désormais, ma vie ne sera qu'une quête. Je retracerai les chemins du monde. Je devine les calculs qui se font tumultuer dans les têtes.
Mon père s'imagine qu'après ce malheur dont le bon Dieu a été généreux, je baisserai les yeux devant lui et passerai mes jours dans l'expiation. Je deviendrai un zombie à la table des repas, mettant la main sur la bouche de mon enfant pour étouffer sa voix. Aristide, quant à lui, pense que je reprendrai comme si de rien n'avait été le chemin de son lit. Dinah, elle, que je grossirai le troupeau bêlant de celles qui ne pèsent qu'à bonne distance de leur berger. Il n'en sera rien. Ils se trompent les uns et les autres. Ma vraie vie commence avec sa mort.
Oui, donc Mira, c'est une de ces femmes de Guadeloupe qui connaît à la fois le bonheur et le malheur. C'est une de ces femmes trahies, mais qui va relever la tête. Et dans bien des livres de Marie Scondé, on voit en effet ces femmes de Guadeloupe qui, loin d'être battues par le destin, relèvent la tête. Au contraire, on voit aussi le portrait fait par Francis Sanchez par Vilma. Et Vilma, elle est d'origine indienne. Elle, peut-être qu'elle subit davantage les choses. Allons voir ce qu'elle nous dit.
Je voudrais être mon aïeule indienne pour le suivre au bûcher funéraire. Je me jetterais dans les flammes qui l'auraient consumé et nos cendres seraient mêlées, comme nos âmes n'ont pas pu l'être. Je voudrais être son mon aïeule indienne pour mourir de lui. C'est ce que je voudrais être. Pour nous deux, le bonheur n'a pas eu le temps de sortir de terre. Peut-être s'il avait vécu au-delà de son temps marqué, j'aurais fini par faire pousser la plante fragile que la chaleur flétrit et que la pluie désole. Tant qu'elle est, notre histoire est sans lumière. Il m'a prise, il m'a gardée par pitié en quelque sorte, parce que j'étais venue chercher refuge auprès de lui et qu'il n'était pas homme à laisser un chien sous la pluie. Oui, je voudrais être mon aïeule indienne pour le suivre au bûcher funéraire. La pluie de nos cendres mêlées retomberait sur le Gange. Si on veut comprendre pourquoi j'ai pris refuge auprès de lui, un homme sans réputation et qui, un mauvais matin, avait surgi au milieu de rivières au sel, il faut que je remonte loin, très loin, dans le temps, jusqu'au jour de ma naissance, quand la sage-femme a crié « Une fille, Madame Ramsaran, le bon Dieu a pris pitié de vous !»
Alors, une fille, est-ce que c'est un malheur ou un bonheur pour une mère ? Est-ce que c'est aussi pour ces femmes de Guadeloupe un bonheur ou un malheur d'avoir rencontré Francis Sanchez ? On va s'attarder sur le témoignage d'une dernière femme qui était Dinah, la belle-mère de Mira, et qui nous dit « La Guadeloupe d'hier est morte de sa belle mort. Ceux qui n'ont pas Dieu pour le voir, ceux qui croient que les jours de la canne reviendront, sont des fous. Mon aïeul Gabriel mériterait une statue, lui qui a vu clair le premier et mis debout la pépinière. » La pépinière, c'est la culture des fleurs. On se moquait de lui. On lui disait « Les fleurs, ça ne se mange pas, monsieur Lamaulne. » Et puis, par la suite, la pépinière est toujours revenue à celui des héritiers qu'on croyait bon à rien, comme mon pauvre père, comme moi-même, comme Aristide. Mais laissez parler. Bientôt, ce sera l'acte unique européen et je vendrai mes fleurs jusqu'en Angleterre. Oui, mes fleurs fleuriront la table de la reine d'Angleterre. Her Majesty the Queen. J'ai déjà mon slogan. Les fleurs ont leur paradis sur terre, la pépinière Lamaulne, Guadeloupe. Je ne voulais pas voir les enfants refusant les caresses. Je ne voulais pas voir les enfants échappant aux plantes. Toutes ces fleurs, toutes ces plantes dont les parfums et les couleurs m'étourdissaient. Ah, les dames Lamaulne ne sont pas restées chez elles. Elles ont cultivé la pépinière. Et puis, peu à peu, dans cette maison de bois, à la lisière de la forêt dense, sans lumière, sans soleil, au paradis pluvieux des lianes, au paradis des figuines, eh bien, la maison s'est enfouie sous les fleurs. Et ma jeunesse s'enfuyait. Par moments, il me semblait que j'étais déjà morte, que mon sang ne coulait plus chaud dans mes veines, qu'il était déjà caillé. Et par les nuits de grand vent, quand il jette à terre les branches des arbres et les fruits encore verts, quand il couche les cases et fait valser les feuilles de tôle, je tremble, je prie Dieu, je ne sais plus ce qu'il y a à faire. J'appelle à mon secours tous ceux aujourd'hui disparus qui m'ont aimé. Mon père, dans mon rêve, brun et rassé comme le pantite Nérou, ma mère, la douce Lina. Ah, ils répondent à mon appel. Ils s'asseyent à mon chevet. Et ils se penchent hors du ciel, ils regardent vers la terre et ils disent « Et là coule encore la rivière, et là la rangée de palmiers royaux, et là les buissons d'innocents rouges. » Voilà, c'est ce qui entoure Dina, c'est ce qui a entouré pendant longtemps et qui entoure encore maintenant les Guadeloupéens. Alors restons avec eux, avec ces Guadeloupéens bien sûr, ces Dominicains, ces Haïtiens, ces Indiens. Et après avoir dit adieu à Francis Sanchez, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec notre générique.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda.